Ce matin, nous allons aborder donc un texte que peut-être nous avons déjà abordé dans le passé, dans cette église, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup parce que il met au centre l'œuvre de Jésus-Christ. C'est Osée, le prophète, au chapitre 11. Peut-être qu'on a déjà eu l'occasion de l'aborder. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions à nouveau l'aborder. Osée chapitre 11. Alors, Osée fait partie des petits prophètes dans les 17 livres prophétiques de la Bible. Il y a 12 qu'on considère comme des petits prophètes et 5 comme des grands prophètes. Alors, il y a des discussions pour savoir quelle est la différence entre un petit prophète et un grand prophète. La discussion est toute bête pour certains, parce que ça veut dire simplement que les petits prophètes, ils ont écrit tout petit peu, et les grands prophètes ont écrit un peu plus. Bon, ça c'est une première distinction qu'on pourrait dire qui saute aux yeux. Mais la deuxième distinction, et à mon avis la plus importante, c'est que les grands prophètes ont comme mission de s'adresser aux nations. Pas seulement à Israël, pas à une seule nation. Les petits prophètes ont pour mission de s'adresser à un petit groupe, un peuple, un royaume, une tribu. Et c'est en cela qu'ils sont des petits prophètes. Osée s'adresse au peuple d'Israël. Il s'adresse particulièrement à ceux du royaume du Nord. Je ne sais pas si vous savez que en Israël, après David, son fils Salomon a repris le trône, il a affermi le trône de son père. Israël était un pays puissant, fort. Pendant 40 ans, Salomon a mené les choses correctement, il a vraiment redonné la gloire, la splendeur à Israël, et c'était un royaume avec toutes les 12 tribus, exactement comme Dieu avait voulu, comme Dieu avait prévu. Puis, il y a son fils, Roboam, qui va arriver au pouvoir, et lui va se comporter vraiment d'une manière pas très sage. À cause de lui, il y aura guerre, schisme, division en deux, il y aura deux royaumes, le royaume du nord, avec la capitale Samarie, et le royaume de Juda, au sud, avec la capitale Jérusalem. Nous sommes là. Nous sommes à cette époque, un peu plus tard que cette époque-là, puisqu'on est dans l'époque où il y a d'autres rois qui vont s'enchaîner, et ces rois, donc la prophétie d'Osée va s'appliquer sur les rois du royaume du Nord, et en même temps, notamment dans le royaume du Nord, Jéroboam II, et en même temps, ça va quand même s'adresser, puisque c'est le message de Dieu, sur le royaume aussi du sud, donc de Jérusalem. Osée. Avant de lire le texte aussi, j'aimerais vous dire que j'ai trouvé une chose très intéressante concernant le nom de Osée. Vous savez que Josué, donc le successeur de Moïse, s'appelait Osée. Mais c'est Moïse qui a changé son nom et qui lui a dit « Tu t'appelleras plutôt Josué ». Ça, j'ai découvert, je dis « Waouh !» Bien. Osée, c'est un diminutif hébreu de Oshéa. Et Oshéa, ça veut dire le salut, sauvé. Donc voilà, comme ça, vous savez ce que peut dire le mot Osée. On va lire le texte. « Quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je avec comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Éphraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du saint fidèle. Le livre d'Osée est un livre qui relate l'histoire dramatique. C'est un drame. C'est un drame d'un Dieu qui aime un peuple infidèle. Mais qui, paradoxalement, ne se fatigue pas de les aimer. Ils sont infidèles, mais Dieu les aime et les poursuit, les continue à les aimer malgré leur infidélité. Un théologien avait dit, pour résumer le message du livre d'Osée, il disait ceci, c'est l'amour puissant, inaltérable de Dieu pour Israël. Cet amour ne sera satisfait que lorsque Dieu aura établi une parfaite harmonie entre ce peuple et lui. Une histoire d'amour, comme celle que nous-mêmes, nous avons avec Dieu. Il a commencé le plan pour nous sauver depuis plus de 1500 ans. Mais ce Dieu, malgré les aléas, malgré les infidélités, malgré les trahisons, il a accompli son plan d'amour. Nous avons été sauvés en Jésus. Et dans ce chapitre 11 que nous venons de lire, il est question de cet amour. Et j'aimerais ce matin partager simplement trois choses qui m'ont beaucoup interpellé dans ce texte. Et ces choses m'amènent vraiment à réfléchir à l'amour de Dieu, à l'œuvre de Jésus-Christ et à toute la considération que je porte pour ça. Première partie. Donc j'ai dit trois choses. Première partie, à partir du verset 1, c'est un Dieu qui est occupé à se rappeler de ce qui s'est passé entre lui et son peuple, qui est en train de rappeler son amour pour son peuple. Quand Israël était jeune, oh oui, je l'aimais vraiment. Un peu comme nous, avec nos enfants. Nathan Jacques, il est petit, il est beau, il est mignon, il vient dans les bras, qu'est-ce qu'on peut aimer? Qu'est-ce qu'on les aime, ces enfants? Quand ils sont jeunes, on les aime. On a cette conscience, cette responsabilité, cette impression que si nous ne faisons pas quelque chose avec ces enfants, mais ils vont être malheureux. Et on est là, on s'investit. C'est ce que Dieu dit. J'ai pris Israël comme un enfant. Je l'aimais. Je voulais en faire un peuple, un peuple qui soit consacré à moi, un peuple qui m'aime et que j'aime, avec lequel nous soyons si bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé juste à la sortie du désert, alors que Dieu était en train de se révéler comme leur père, le père de leur nation qui allait se mettre en place? Voilà qu'ils se mettent à se rebeller contre Dieu. Voilà qu'ils se mettent à s'éloigner de Dieu. Un peu comme nos ados, nos jeunes. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a des ados ici. Mais quand ils commencent à grandir, ça devient différent. Hé, laisse-moi tranquille. Oh, ne me touche pas comme ça. Hein? Ils grandissent et prennent de plus en plus de la distance. Mais ici, c'est dramatique parce qu'il s'agit véritablement d'une rébellion contre Dieu. Il s'agit d'une opposition à Dieu. Le peuple choisit de s'opposer. Dieu est là perdu dans ses pensées. Il est là en train de se souvenir de tout ce qu'il a mis en place pour le bonheur de son peuple. Et pourtant, ce peuple qu'il a trahi. Cette première partie, ce premier point qui m'a frappé, c'est l'amour profond de Dieu. Alors qu'Israël est dans le péché, Dieu puise ses forces pour l'aimer encore dans les souvenirs du passé. Un peu comme vous aujourd'hui, votre enfant qui fait n'importe quoi, mais vous voulez encore vous souvenir quand il était petit et dire, oh, je l'aime encore, je l'aime toujours. C'est mon gamin, c'est ma gamine, c'est mon enfant. Dieu puise dans ses souvenirs du passé pour trouver la force de continuer à aimer ce peuple. Par quoi se caractérise cet amour dans ce texte? Regardez vous-même. Dans ce texte, verset 3, « C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. » Dieu était là, présent, était là, proche. Un peu comme quelqu'un qui guide les premiers pas d'un enfant, qui le tient par la main, qui l'encourage à marcher encore, à essayer encore. Je le soutenais par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Verset 4. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. La démarche de Dieu était une démarche où il voulait à la fois que le peuple aille vers son destin humain, tout en le permettant de pouvoir continuer dans le lien d'amour avec lui. Mais ils n'ont pas compris. Toujours verset 4, Dieu les nourrissait, il pouvoyait, il leur apportait tous les besoins dont ils satisfaisaient aux besoins qu'ils avaient. Cet amour est un amour qui se caractérise, c'est un amour d'un père. Un père, un amour filial, d'un père attentionné, un père qui veut aimer véritablement. Et ça, c'est la première chose qui m'a frappé dans ce texte. De même, je vois ici l'amour profond de Dieu. Dieu aime. Et vous avez remarqué, ce n'est pas un amour qui dépend des circonstances. C'est un Dieu qui se lamente sur le comportement mauvais de son peuple, mais tout en continuant à l'aimer. C'est un Dieu qui n'est pas d'accord avec l'attitude de rébellion et de péché de son peuple, mais il continue à les aimer encore. Il continue à aimer ce peuple. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de est-ce que ce que je fais, Dieu va aimer ou pas. Non, ce que je fais, Dieu n'aime pas, mais il m'aime. Mais il m'aime. Voilà le Dieu que nous avons. Parce que c'est la même chose qu'il a fait en Jésus-Christ. De même que Israël a fait l'objet d'un amour, mais profond de Dieu, de même nous aussi, nous sommes l'objet du même amour. Dieu a prouvé son amour pour nous en envoyant son Fils Jésus-Christ et en faisant de nous ses enfants. Ce matin, J'aimerais que nous puissions tenir compte de deux choses. Premièrement, quel est notre retour par rapport à cet amour? Moi, lorsque je pense à l'amour profond de Dieu, ça me pousse à le louer et à le glorifier. Ça me pousse à l'aimer, ça me pousse à l'aimer plus encore. Quand je réalise que Dieu m'aime, ça force mon respect pour lui. Parce que c'est vrai quoi, si quelqu'un vous aime, vous le respectez, non? Non? Si quelqu'un vous aime vraiment, vous n'allez pas le mépriser quand même. Oui, peut-être. Nous sommes dans un drôle de monde, hein. Mais quand quelqu'un nous aime vraiment, on a tendance à le respecter. On a tendance à le prendre avec considération. On a tendance à lui réciproquer l'amour. Peut-être pas avec la même force, mais sûrement, on a tendance à lui donner un retour. Est-ce que nous sommes de ceux qui sont amoureux de Dieu, comme il est amoureux de nous? Aimons-nous Dieu? Que chacun réfléchisse à ça et réponde à la question. L'amour, ce n'est pas une théorie. Si je dis à Rebecca que je l'aime et que je ne la vois jamais, que je ne vais jamais au grand moment de sa vie, que je ne me souviens même pas de son jour d'anniversaire, que je la vois sur la route, je la dépasse, hein, mais je dis que je l'aime. Quelqu'un me dira, mon gars, il y a du mensonge en l'air. Quand j'aime quelqu'un, je le prouve à travers les actes que je pose. L'amour ne se déclare pas théoriquement, l'amour se prouve à travers les actes. Oh, bien sûr, dans la dictature d'amour, je peux te dire, tu ne me visites pas, tu ceci, tu cela, donc tu ne m'aimes pas. Oui, on peut. Bon, ouais, quand on aime beaucoup quelqu'un, on peut exiger quand même qu'il vienne vous voir, qu'il soit avec vous, etc. Ça, c'est normal. Mais quelqu'un qui aime, mais qui ne le prouve pas, qui ne pose pas les actes de cet amour, il crée un doute sur l'amour. Les gens sont malheureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, les gestes que nous posons les uns à l'égard des autres, sont-ils des gestes d'amour ou des gestes intéressés? Quand des parents offrent des cadeaux à leurs enfants, est-ce qu'ils les offrent parce qu'ils les aiment ou les offrent parce qu'ils veulent que, à travers le cadeau, l'enfant lui foute la paix? Voyez, comme iPhone, machin, comme ça, télévision, pour que... Hein? Regarde, allez, fiche-moi la paix. Ou parfois, simplement pour quelque chose d'intéressé. Je vois des drames dans l'école de mes enfants, des parents qui offrent des cadeaux parce qu'ils sont divorcés, parce que ils veulent que l'enfant soit de son côté, contre l'autre parent. Intéressé, mais ce n'est pas de l'amour. Dieu a des sentiments d'un père. Mes amis, Dieu a des sentiments d'un père. Il aimerait nous serrer dans ses bras et nous dire à quel point il nous aime. Il nous suit du matin au soir, dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça que quand vous posez des actes, on doit se dire, ouh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Le Dieu qui m'aime, il me regarde, il me suit partout, il est amoureux de moi, il me regarde partout où je suis. Et moi, quand je fais des bêtises, attention, il les voit, oh, il va se dire, oh Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a occupé à faire? Dieu nous aime. Dieu nous aime et nous trace une route vers l'éternité. Il veut que nous ayons une relation d'amour avec lui et une relation exclusive. Dieu ne veut pas partager. Il veut que ce soit lui et nous, pas lui, notre argent, notre femme, notre travail, notre ceci, notre cela et lui. Non. Lui et nous, en priorité, exclusivement. C'est Jésus qui disait en Matthieu chapitre 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ça, c'est le premier point. Sommes-nous conscients de cet amour de Dieu pour nous? Et si nous avons, nous sommes conscients de ça, est-ce que cet amour transforme-t-elle notre vie? Est-ce qu'elle vient modifier, calibrer notre vie vers Christ? Deuxième chose qui m'a frappé dans ce texte. Regardez à partir du verset 6, 5, 6 déjà. Dieu annonce des sanctions. Verset 5. Donc tu peux remettre le texte d'Osée. Dieu annonce des sanctions. Il dit, ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de venir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien à cause des saints qu'ils ont eu. L'amour, et c'est la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que l'amour de Dieu n'exclut pas la punition. L'amour de Dieu n'exclut pas la punition. Vous allez me dire, oui, qui aime bien, châtie bien. C'est vrai, hein? Nous, les parents, on est bien payés pour ça. C'est le sale boulot que les papas font généralement, parce que moi, je dis toujours à mes enfants, je n'aime pas sévir. Mais si je suis obligé, ne m'y force pas, mon fils, parce que je vais le faire. Hein? Moi, je dis toujours à mes enfants. Hein? Qui aime bien, châtie bien. C'est vrai que dans ce texte, nous voyons que Dieu punit. Il ne laisse pas le mal se faire. Mes amis, si Dieu est amour, Dieu est aussi saint. Dieu est aussi juste. Et dans ce sens, il ne peut pas laisser le pécheur avec son péché, persévérer dans son péché. Non, Dieu va punir. Dieu va punir. Mais vous savez, quelque chose qui me frappe ici, c'est que la punition de Dieu, c'est pour un temps. Le temps que la leçon soit comprise et que le peuple change de comportement, devienne meilleur. C'est pas une punition éternelle. C'est pas une punition définitive. Oui, elle viendra. Elle viendra. Dieu a mis un temps pour ça. Mais pour le moment, Dieu punit encore. Mais il punit de façon à ce que nous puissions comprendre dans quoi nous sommes tombés, comprendre la leçon et pouvoir changer de comportement. Mes frères, quand vous êtes dans les épreuves et que vous analysez que votre épreuve est le produit de votre propre erreur, parce qu'il y a des épreuves qui sont parfois le fruit de mon propre erreur. Moi, j'étais étudiant. Parfois, quand j'avais trop guindaillé et que je ratais un examen, je ne pouvais pas dire que c'est la faute au prof. C'est ma faute à moi. C'est tout. Eh bien, mes amis, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Si je tombe dans les épreuves parce que j'ai commis une erreur, parce que j'ai péché, je dois pouvoir me dire, Seigneur, pardonne-moi. Je dois me repentir et me remettre sur le droit chemin. Et Dieu permet cela. Et parfois, Dieu permet certaines épreuves juste pour qu'on se rende compte des erreurs, qu'on se répande et qu'on revienne sur le bon chemin. Il est toujours prompt à nous reprendre avec nous. Dieu punit pour un temps, espérant que la leçon sera comprise et que le peuple va changer de comportement et devenir meilleur. Exactement comme ce que nous faisons avec nos propres enfants. Et regardez le monologue que Dieu fait ici, au verset 8. Je trouve ça fabuleux, ce combat entre son amour d'un côté, sa justice et sa sainteté de l'autre. Regardez ça, regardez ça. Que ferais-je de toi, Éphraïm? Combien de parents n'ont pas eu parfois à dire ça à leurs enfants? Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Que ferais-je de toi? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Ces deux pays font allusion à Sodome et Gomorre, avec le feu qui est tombé sur eux. Te traiterai-je de cette façon-là? Et regardez comment Dieu avoue à travers son prophète. Regardez le verset 8. « Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. » Ce n'est pas un plaisir pour Dieu de punir les gens qu'il aime. Ce n'est pas un plaisir. On peut continuer le verset voilà. Voilà, merci. Dieu n'aime pas la punition. Ce n'est pas ça qu'il veut. Mais il est saint, il est juste. Il ne peut pas laisser passer le péché. Il ne peut pas laisser passer le péché. Ce monologue où Dieu ouvre son cœur nous dévoile sa double nature, celle d'être à la fois un Dieu profondément aimant, un Dieu d'amour pour son peuple pécheur, mais en même temps un Dieu juste et saint qui ne peut pas laisser le péché continuer. Extraordinaire. Un drame. Un drame pour Dieu qui à la fois aime le pécheur et déteste le péché. Un vrai drame. Exactement comme celui-là à Golgotha, sur la croix, quand Dieu a été déchiré entre l'amour envers son Fils et la justice qu'il devait exercer sur lui à cause du péché. Mes amis, tout péché doit être sanctionné car Dieu est juste et saint. Alors, premier point, on a vu l'amour profond de Dieu. Deuxième point ici, on voit le problème lié avec le péché. Et on peut s'arrêter un instant pour réfléchir. Est-ce qu'on doit abuser de l'amour de Dieu ? Doit-on abuser de sa patience ? Doit-on l'énerver parce qu'il est bon, parce qu'il est amour? Non, parce qu'on sait qu'il est juste et saint et qu'il ne laissera pas passer le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Alors, peut-être c'est l'occasion pour nous de s'arrêter un instant et de se demander quelle est notre attitude sur le péché. Comment percevons-nous le péché? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on joue? Vous savez, il y a des gens qui aiment bien être sur la ligne. Sur la ligne. C'est pas encore le péché. Mais, il y a des gens qui aiment vivre une vie où on ne s'éloigne pas du péché, mais on fricote un peu avec lui. Dieu connaît ma faiblesse. Il sait que de quoi je suis fait. Après tout, hein? Non. Le péché, c'est pire que le tsunami. Vous avez vu les effets destructeurs du tsunami? Eh bien, le péché, c'est 1 million de fois plus. Le péché détruit les vies individuelles et la personne individuelle qui est détruite avec le péché entraîne aussi son entourage, et etc., etc. C'est une généralisation. Le péché, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, si nous devons suivre la trame de ce texte, est-ce que je pécherai alors que j'ai un Dieu qui m'aime? Ferais-je du mal à quelqu'un qui m'aime? Parce qu'en dernière analyse, à la lumière de ce texte, le péché devient un acte d'infidélité à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous devons extirper le péché de nos vies. Parce que quelque part, le péché, c'est une manière de dire à Dieu, « Eh bien, je fous à pied ton amour, j'en ai rien à cirer de ton amour. » Je sais que ce n'est pas ça que nous voulons faire. Troisième chose, et ça c'est la dernière chose qui m'a frappé, le drame, le tiraillement de Dieu se termine quand même par mettre à l'avantage son amour. D'un côté sa justice et sa sainteté, de l'autre côté son amour. Et Dieu est vraiment en pétard il va punir, il va sévir pour un temps, le temps que le peuple se répande. Et toute la Bible est remplie d'histoires où le peuple se répand. Dieu les restaure. Et en avant, ils recommencent encore avec Dieu. Et puis, ils retombent encore. Et Dieu les reprend encore, etc. Mais Dieu, chaque fois, c'est son amour qui vient en avant. Verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm. Pourquoi? Parce que je suis Dieu et pas un homme. Le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Mes amis, nous demandons parfois à Dieu de venger les méchants, de punir les méchants. Nous demandons parfois à Dieu d'être sévère avec les pécheurs, avec les gens qui commettent des péchés. Et nous-mêmes, entre nous chrétiens, qu'est-ce que nous sommes parfois durs à l'égard des autres pécheurs? Nadine est une pécheresse. Nadine, je prends mon épée. Nadine, nous sommes durs avec les autres. Combien d'églises, combien de frères et de sœurs ne sont-ils pas séparés, en guerre, en froid, parce que l'un a considéré que l'autre était plus pécheur que lui, était de mauvaise vie, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être fréquenté. Combien n'a-t-on pas perdu de dynamisme et d'entrain dans l'œuvre de Dieu à cause du fait que nous avons considéré l'autre comme un pécheur qui mérite la colère de Dieu et qui va la subir? Parfois on prie intérieurement en disant, Seigneur, frappe-le quand même un peu, comme ça. Ça lui apprendra quand même à savoir qu'il est en train de pécher contre toi. Ah, mais pas moi. Ah non, moi. Et moi, je suis saint, je suis bon. Je suis parfait, moi. Mais Dieu n'agit pas selon sa colère. Son amour vient au secours. Il renonce à sa colère. Heureusement pour Israël. Heureusement aussi pour nous qui sommes sauvés en Jésus-Christ. Heureusement que Dieu renonce à sa colère pour restaurer le pécheur. Et regardez, il le restaure. Il le restaure, il dit, ils suivront l'Éternel. Ils vont accourir, ils viendront. Et vous avez remarqué une chose, l'homme et Dieu n'agissent pas de la même façon face à la punition et à la colère. Et Dieu dit, je renonce parce que je suis Dieu. Et souvent, nous ne comprenons pas Dieu. Pourquoi est-ce que, face à la méchanceté de certains, il n'intervient pas? Un exemple d'un homme qui n'avait pas du tout compris et accepté ce que Dieu faisait, c'est Jonas. On l'envoie, il dit, Seigneur, quoi? Je ne vais pas y aller, je te connais, tu es trop bon, tu es trop gentil. Dès qu'ils vont faire premier signe de repentance, tu vas laisser tomber. Non, moi je veux vraiment la castagne, quoi. Ils meurent tous. Il est Dieu. Il n'a pas les mêmes sentiments que nous les hommes. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Peut-être, ce serait bien que nous puissions imiter notre Père. Essayons d'être des chrétiens qui ne portent pas de jugement trop vite sur les autres. Des chrétiens qui ne catégorisent pas les gens. Celui-là, pas la peine. Essayons d'être ces chrétiens qui nous laissons porter par l'amour pour les autres. Je dis pas qu'il faut excuser si on voit quelque chose qui va pas chez un frère, je dis pas qu'il faut dire, oh, au nom de l'amour, je lui dis rien. Non. Mais il y a une façon de dire à quelqu'un quelque chose qui puisse l'aider à grandir malgré son péché. Si nous nous laissons porter par l'amour comme Dieu et non pas par la colère, face au mal, peut-être qu'il y aura beaucoup de paix et de possibilités d'épanouissement pour tous. Vous voyez, c'est l'amour, c'est la preuve d'amour qui construit le chrétien. C'est parce que vous êtes aimé que vous grandissez spirituellement. Un enfant, c'est parce qu'il est aimé qu'il va grandir. Un enfant qui n'est pas aimé, il ne fera pas beaucoup de progrès dans sa vie. Et s'il en fait, peut-être en avançant, il fera beaucoup de mal aux autres parce qu'il n'a pas reçu d'amour. L'amour est quelque chose qui transforme la vie d'un être humain. Et Dieu le donne, montre cela à travers son choix. Te détruirai-je? Non, je renonce au nom de l'amour. Quelle merveilleuse perspective se dessine ici. Dieu pardonne le pécheur. Dieu lui redonne de la place dans son cœur. De nouveau, l'amour profond de Dieu peut se déployer dans leur vie. Alors, je vais terminer peut-être avec juste un appel en disant ce matin, peut-être que vous êtes empêtré dans le péché, peut-être que votre conscience du péché vous empêche de vivre une vie spirituelle convenablement. Sachez que Dieu ne vous en veut pas toujours, mais il demande une vraie repentance. Que chacun de nous ose devant Dieu dire sincèrement, pardonne-moi Seigneur, et sincèrement, je veux y renoncer avec ton aide, je ne veux plus le faire. Peut-être que ce matin, on est dans les épreuves, dans les difficultés, dans des combats, parce qu'il y a là des sujets de prière, il y a là des défis qui sont devant nous. Souvenons-nous de l'amour profond de Dieu, de sa disponibilité à nous combler, à nous aider, à nous entourer, à nous suivre, à nous aider. Que cela nous aide à compter sur lui. Trois choses qui m'ont beaucoup frappé, donc, que je voulais partager avec vous à travers ce texte. L'amour profond de Dieu. Le châtiment de Dieu à cause du péché. Du péché. Et puis, la restauration du pécheur quand le pécheur se répand. Et de ces trois choses, vous l'avez remarqué, c'est l'amour qui est le moteur. C'est pour ça que je dis, notre relation avec Dieu est principalement une histoire d'amour. Et lorsque nous avons compris l'amour de Dieu, lorsqu'on a compris qui est Jésus, lorsqu'on a compris quel est son amour, quel est l'amour qui est derrière toute cette œuvre qu'il a accomplie, ça change complètement notre vie spirituelle. Nous allons vivre autrement avec lui. Et nous allons être des chrétiens autrement. Eh bien, que le Seigneur nous aide à nous souvenir de son amour, à nous tenir à cela et à nous laisser transformer par cet amour grand et merveilleux. Que Dieu vous bénisse.